bienvenue à l'expérience, le podcast du nouveau recrutement. On va accueillir des experts, des spécialistes RH et nos entrepreneurs d'ici. Notre mission, c'est d'humaniser votre recrutement pour faire de vous les employeurs modèles de demain. Je suis Fanny Larocque de l'agence Charlie et je suis en compagnie de mon acolyte Roselyne. Roselyne, bel épisode, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Bon, là aujourd'hui, Fanny, on parle de le sujet le plus tabou, le sujet qui fait grincer des dents, soit la rémunération.
La bébête noire des entrepreneurs. Oh,
puis la rémunération, là, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, est-ce que la rémunération, ça s'arrête juste à un salaire annuel? Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est à l'affût, si on est vraiment dans le game, là, si on fait partie de la fameuse compétition? Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements par rapport à la rémunération. Quand est-ce qu'on doit faire affaire avec un spécialiste en rémunération? Toutes plein de questions. Et pour en parler aujourd'hui, pour démystifier tout ce beau sujet sur lequel on a beaucoup, beaucoup de questionnements et qui fait, encore une fois, grincer des dents, on n'a nul autre que...
On a deux experts aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui est vraiment génial, puis secret de polichinelle, c'est deux experts avec lesquels on collabore à l'agence Charlie. Fait que c'est nos experts à nous. On commence avec un invité qui est expert dans la rémunération. C'est tellement drôle parce que dernièrement, on a fait tout le travail de rémunération à l'agence Charlie. Elle nous accompagne en tant qu'experte. Puis, il y a également de nos clients, de nos sous-traitants qui font appel à elle. Fait que ça va être vraiment notre experte côté rémunération pour nous aiguiller, savoir plus, un petit peu plus à propos de ça. Donc, on accueille Arline Trudel. Arline, bienvenue.
Merci.
Puis, on accueille un spécialiste, soit notre CFO pour PME, quelqu'un qui va être là au niveau de tout ce qui est stratégie, finance, qui accompagne les PME. Puis, Simon aujourd'hui, Simon Jaudoin qu'on accueille. Merci beaucoup de venir. Aujourd'hui, ça va être une capsule différente. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que Simon, vu qu'il accompagne les entrepreneurs, les gestionnaires au niveau de tout ce qui est finance, il va vraiment pouvoir vous aider au niveau du positionnement, de la stratégie. Puis, on a notre magnifique Arline qui va vraiment plus nous en donner au niveau du contenu, de la connaissance pour tout ce qui est rémunération. Donc, on débute avec un atelier brise-glace. Arline, si je te demandais un retour en arrière, la petite Arline, qu'est-ce que tu rêvais d'être lorsque tu allais être grande?
Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être psychologue. Je rêvais d'être psychologue. Écoute, vous allez me dire, rémunération, psychologie, je m'en vais où avec ça? Mais en fait, j'ai un baccalauréat en psychologie et plus tard dans le processus, en fait, la psychologie, c'est l'aspect humain de bien comprendre les relations, mais l'aspect chiffré aussi. Il y avait un petit côté de moi qui aimait l'aspect comptable et tout ça. Donc, le in-between entre les deux, c'est, à mon avis, à moi, c'est la rémunération. Fait que c'est peut-être pour ça. Puis, tu sais, on est à l'écoute en psychologie et tout ça. Donc, des gens, des entreprises, des PME. Donc, voilà, c'est ça que je voulais être.
Ah, c'est surprenant, j'aurais pas pensé.
Ouais, ouais, vraiment, c'est bon. Là. Ouais.
Puis, Simon, toi, qu'est-ce que tu rêvais d'être?
Moi, je voulais dessiner des autos. Moi, je voulais être designer automobile quand j'étais petit.
OK, mais là, j'aurais que la mort parce que là, on ne savait pas, celle-là.
Non, moi, j'ai toujours été un passionné d'auto, puis j'ai toujours aimé le dessin. Puis quand j'étais jeune, j'arrêtais pas. Je dessinais juste des autos tout le temps. J'arrêtais jamais. C'était ça que je voulais faire plus tard. Puis une erreur de parcours, je suis devenu comptable.
OK. Simon n'est pas un comptable avec des bas bruns. Je vois les
bas. Non, mon Dieu, c'est un comptable coloré.
Ah, j'aime ça. Wow! Très impressionnant. Donc, Arline, Simon, bienvenue à l'expérience.
Merci.
Mais là, si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la rémunération, qu'est-ce que c'est de la rémunération? Ça mange quoi en hiver, la rémunération?
Je laisserai Arline commencer.
La rémunération, en fait, je dirais que c'est la partie chiffrée des ressources humaines. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est salaire, on va voir sûrement tantôt que salaire, mais c'est beaucoup plus large que ça, tu l'as dit tantôt. Donc, la partie chiffrée des ressources humaines, mais en fait, c'est le pourquoi, combien qu'on paye, mais aussi comment on le fait. Je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus tantôt. Mais c'est comment on met ça en place avec nos employés. Donc, est-ce qu'on peut mettre des politiques en place? Donc, c'est tout l'aspect, je dirais, du combien, mais comment aussi on l'implante là, dans, dans chacune de nos PME avec notre saveur, notre propre culture et notre ADN.
Donc, toi, tu es spécialisée en rémunération.
Oui.
À quel moment est-ce qu'un employeur fait appel à un spécialiste en rémunération? Justement, on commence par où?
Souvent, c'est des irritants, des enjeux ou des défis. Hein? Souvent, on a des problématiques d'attirer des gens. Mm. Puis là, ben, on se rend compte, est-ce que ma structure est encore à jour? Pour ceux qui ont évidemment des structures en place. Donc, c'est souvent, ça part de défis à l'intérieur de l'organisation. Puis là, ben, on essaie, dans le fond, de trouver des solutions, finalement, que ce soit pour attirer ou même retenir là, des employés actuels. Là. Puis on connaît Dieu sait des défis actuellement avec toute la guerre des talents. Là. Mm-hmm. Fait que c'est principalement un défi. Puis nous, on propose des solutions évidemment adaptées en fonction de chacune des PME.
Ce serait quoi comme les trois questions premières, là, les trois must de questions que tu poses à ton entrepreneur ou à la PME justement qui t'appelle pour avoir de l'aide?
Dans le fond, je dirais que la première question, tu sais, c'est jusque où tu veux aller en termes de transparence avec tes employés. Tu sais, okay. Parce que au-delà du combien, comment on se positionne, ça, c'est probablement une des questions. Comment tu veux positionner ta rémunération, mais aussi comment tu veux que la démarche avec nous se passe? Est-ce que tu veux, par exemple, mettre des cadres clairs et que tu veux l'expliquer aussi à tes employés? Est-ce que tu veux les impliquer aussi dans la démarche? Donc, c'est tous des éléments aussi qu'on essaie de trouver là, avec une des questions qu'on pose.
Moi, je me demande, Simon, toi, tu travailles très stratégiquement
oui.
avec les décideurs d'entreprise, des gestionnaires. Comment est-ce qu'on aborde ça? T'sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te le dit, OK, bien là, j'ai un problème à l'interne, j'ai-tu une opportunité au niveau de mes salaires, de ma rénum? Ou est-ce qu'on le décèle au niveau du management pour faire appel à un service comme ça? Bien, tu le vois-tu?
Bien, souvent, quand ça arrive au niveau financier, c'est qu'il y a, il y a probablement un taux de rotation qui est causé par des employés qui quittent pour une autre entreprise. Puis là, ça vient qu'à un moment donné, bien, on découvre que c'est le salaire qui est un élément qui attire ailleurs. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas compétitive dans ses salaires ou qu'elle n'a jamais été compétitive. Des fois, c'est des cas où le marché a évolué tellement rapidement dans la dernière année des entreprises de services, des entreprises en technologie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements d'employés, beaucoup de changements. Donc, la rémunération, là, souvent, c'est malheureusement, c'est rendu au niveau des finances ou des chiffres, c'est une petite affaire, c'est un petit peu tard. Mais la rémunération, c'est la dépense la plus importante dans les entreprises de services, les entreprises technologiques. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'il faut regarder de très près.
Tu trouves que tu représentes 100% comme CFO d'un comptable de la nouvelle génération.
Puis, merci.
Si, mettons, tu nous expliquais pour les gens qui nous écoutent, qui ne nous voient pas à la maison, parce que c'est moi, il est funky avec des lunettes, avec un veston et tout. Si tu nous expliquais, c'est quoi ton service puis qu'est-ce que tu fais pour différentes entreprises? Parce que l'autre jour, tu me disais, bien, moi, je fais de quoi avec toi, mais je ne le fais pas avec l'autre, puis je ne le fais pas. Mais grosso modo, où est-ce que tu accompagnes les gens puis c'est quoi ta valeur ajoutée quand tu les accompagnes? Parce que moi, je la connais, on travaille ensemble, mais oui. Les gens qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais l'expliquer? Parce que des fois, je dis CFO pour petite entreprise. C'est ça encore?
Bien, CFO, c'est l'acronyme anglophone de Chief Financial Officer, donc directeur des services financiers. En PME, là, le rôle là, au niveau comptable, là, chef comptable, contrôleur, directeur des finances, VP finances, CFO, ça peut à peu près tous se ressembler. Mais nous, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on aide nos clients à comprendre leur environnement financier, à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être influencé, qu'est-ce qui peut être amélioré, puis où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Fait que moi aussi, c'est des questions que je pose, là, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi les objectifs, parce que ce qui est arrivé, mais ce qui s'en vient, c'est ça qui est important, puis il faut être capable de bien le planifier, bien le prévoir. Puis l'embauche, c'est souvent là, des questions très, très importantes à aborder.
Puis nous, Arline, si on regardait « Travail pour rémunération éco mm-hmm. », ça ressemble à quoi un peu le portrait des clients que vous desservez autre que nous? Mais sinon, ça ressemble à quoi, mettons, l'éventail de ton service? Puis c'est quand que les gens font appel à toi? Puis c'est quand tu dis « ben oui, je peux t'aider », tu sais?
Ben, en fait, dans les PME, ça peut être, tu sais, on peut parler d'entreprises à peu près de 10 employés, à peut-être aller à 600, 700 employés, là. Tu sais, on commence à apprivoiser la plus grande entreprise. Mais ça peut être, donc, c'est de tout type de taille et de tout type de secteur. T'sais, je vous dirais que là, avec la pénurie, les secteurs des technologies de l'information, ça ne le cachera pas. C'est quand même un secteur qui est beaucoup sollicité. C'est une industrie qui est agressive. Fait que, à ce moment-là, t'sais, je vous dirais qu'on en a beaucoup dans le secteur des technologies, mais ça peut être aussi t'sais, des entreprises manufacturières. Par exemple, on a de la difficulté même à avoir des mécaniciens. Là. Donc, c'est pas peu dire que les défis, tu sais, on peut penser technologie, mais sont à peu près partout dans tous les types d'organisations, dans tous les secteurs. Là.
Tout à fait. Et là, bien, la rémunération, comme on l'a dit plus tôt, ça englobe pas juste un salaire. Qu'est-ce que ça englobe, la rémunération, aujourd'hui, en 2021?
Bien, en 2021, la rémunération, on va dire la rémunération globale, il y a l'aspect pécunier. Donc, tout ce qui est salaire de base, prime, commission, donc peut-être le classique qu'on peut parler de rémunération. On peut parler aussi de tout ce qui est non pécunier, le climat de travail. Là, vous allez me dire, c'est de la rémunération, ça?
Ben oui. C'est ça que j'allais dire, hein? Mais correct, oui, correct, c'est ma job.
mais dans le fond, il y a l'aspect non pécunier aussi, parce qu'il y a tout comment on paye les compétences à l'intérieur de l'organisation, le développement aussi de nos employés, en fait, des employés des PME. Donc, tout le parcours, le cheminement, il y a aussi toute l'assurance collective et le régime de retraite ou épargne-retraite. Tu sais, ça, on parle plus de l'aspect pécunier là, de la rémunération. Donc, c'est quand même un grand volet, mais quand on vient faire une offre à un employé, bien, il faut évidemment regarder l'ensemble de ces éléments-là. Puis dans certains cas, c'est pas l'élément qui va nous distinguer, c'est pas tant l'aspect salarial que les autres volets là, qui sont propres à l'entreprise comme telle.
Puis de quelle façon est-ce que je sais ou de quelle façon est-ce qu'on va chercher l'information? Moi, j'ai une entreprise, ça fait quand même plusieurs années que ça fait plusieurs décennies même que j'ai cette entreprise-là. J'ai jamais vraiment fait d'exercice. J'ai toujours un peu les mêmes échelles salariales. Puis là, ben, je suis au prix avec un problème de main-d'œuvre parce que tout le monde s'en va. J'ai de la difficulté à attirer mes talents. Comment est-ce que je fais pour, justement, être à l'affût de la compétition? Comment est-ce qu'on se tient au courant de ces échelles salariales-là?
Bien, en fait, souvent, tu as des indicateurs. Hein? Tu sais, on a parlé tantôt d'indicateurs ressources humaines, le taux de roulement. Est-ce que, tu sais, il y a des postes critiques dans l'entreprise qui tournent plus que d'autres? Est-ce que je perds mes bons joueurs aussi? Tu sais, c'est souvent des signes ou des symptômes, je dirais, de est-ce que je dois, en fait, aller chercher de l'information additionnelle? Puis, en termes de sources de données, souvent, on utilise des bases de données. On peut faire aussi des enquêtes auprès de, quand c'est plus niché comme type d'entreprise, bien là, on peut faire aussi des enquêtes auprès d'entreprises. Mais bien souvent, on utilise des bases de données qui sont fiables, que ça fait très longtemps qu'elles sont utilisées pour nous permettre d'aller chercher de l'information qui est pertinente parce que marché de comparaison, c'est vaste. On veut se comparer à qui, quel bassin de main-d'œuvre on va aller chercher.
La région, je pense aussi, en
oui,
en est pour
tout
beaucoup.
À fait. Donc, puis en termes de taille aussi d'entreprise, donc il y a beaucoup d'éléments qu'on veut se comparer. On dit tout le temps qu'on veut comparer des pommes avec des pommes. Donc, c'est quoi notre marché qu'on veut, ou soit qu'on perd des gens ou au détriment qu'on pourrait aller chercher des employés.
J'ai une question vraiment crunchy, là. Parce qu'on a fait l'exercice souvent ensemble il n'y a pas longtemps. Puis, ouais. On dirait que tout est dans tout, là, avec ce que Arina dit. Oui, la RENUM. Oui, faire une analyse, tu sais, salariale, puis tout. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, bon, mais c'est ce salaire-là, entre ça, puis ça. Mais en tant qu'entrepreneur, là, oups, en tant qu'entrepreneur, tu sais, je l'ai vécu, là. C'est gros pour un entrepreneur de dire, OK, bien, c'est un gros chunk d'argent.
Ouais.
Un salaire. Puis je me sais que nous, on a embauché beaucoup dans la dernière année, puis là, je me disais, oh my God, c'est beaucoup d'argent. Puis moi, je pensais qu'en tant qu'entrepreneur, tu devais accumuler tout cet argent-là dans ton compte de banque avant d'engager. Fait que j'attendais, puis là, tu me l'as dit, tu sais, non, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement, à des entreprises qui sont en croissance puis qui ont peur, tu sais, un peu de se commettre puis de se lancer à l'eau, là?
Ouais, bien, c'est de connaître un peu ton cycle. Les premiers employés sont toujours plus difficiles à engager parce que c'est du nouveau. Souvent, c'est un nouveau poste qu'on crée. C'est quelque chose qu'on va essayer. Fait que ça, il faut se préparer, là. Avoir de l'argent en banque, c'est une bonne solution parce qu'un employé qui arrive nouvellement dans l'entreprise, il est pas productif la première journée. Il va avoir une période d'adaptation. Il faut qu'il s'habitue. Il faut que toi, tu t'habitues aussi à comment fonctionner avec ce nouvel employé-là. Donc, avoir un petit un coussin ou au moins s'attendre à c'est la gestion des attentes est super importante. Hein. On n'est pas, c'est pas efficace jour 1. Fait qu'il faut en tenir compte. Il y a certaines entreprises qui vont faire le choix de pas avoir de profit une certaine année parce qu'ils sont en embauche massive. Puis ils disent, ben nous, c'est un choix d'entreprise, c'est la stratégie qu'on adopte. Mais il faut quand même, après ça, être capable de réagir rapidement aussi quand ça fonctionne pas parce que ça peut dégringoler assez rapidement. Fait que se préparer, avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que cette personne-là va rapporter aussi, parce que veut pas, on est dans une entreprise de service dans ton cas. Donc, cette personne-là, c'est notre petite usine, notre petite machine qui produit des revenus. Donc, pour s'assurer là, que tout ça cadre ensemble.
Ben, je trouve ça drôle parce que les deux, vos services sont complémentaires. Parce que, mettons, tu sais, amène-moi, toi, mettons, tu me dis, bon, ben, on va regarder c'est quoi les compétences de cette personne-là pour cheminer. Puis on va axer sur la compétence. Puis à l'intérieur de ça, tu me dis, OK, ben, tu me sors ta description de poste. Bon, ben, on sort une description de poste, on fait une analyse salariale, on fait une analyse des compétences. Là, moi, je m'en vais, puis je suis là, Simon, on peut-tu embaucher? Mais je suis tellement pas la seule qui vit ça, tu sais. Puis je pense à des entreprises qu'on va voir durant nos podcasts. On a nos amis chez WeCoop qui sont passés de 70 à 700 employés. Ben, c'est la même chose. Fait que, tu sais, comment qu'on se prépare en tant qu'entrepreneur, en tant que décideur pour dire, OK, je peux engager, puis jusqu'à quel point le cash flow est important versus la gestion du risque, tu sais?
Le cash flow, c'est le nerf de la guerre. Hein? C'est ce qui fait que ton entreprise peut survivre ou pas. La situation de WeCoop, je la connais pas personnellement, mais j'imagine qu'il y a du gros financement qui a été cherché puis que ça faisait partie de la stratégie de croissance. Puis le financement servait à faire l'embauche des gens. Il devait avoir un plan assez bien défini pour savoir à quoi ils servaient ces employés-là puis c'était quoi le roadmap ou le chemin qui était pour être emprunté, puis c'était quoi l'objectif ultime. Fait que c'est définitivement, il faut planifier, surtout quand il y a des grosses embauches, des grosses vagues d'embauches.
Puis en tant que CFO en ce moment, est-ce que tu as les mêmes défis chez tes clients avant la pandémie ou après la pandémie? C'est-tu similaire?
Je dirais que les défis sont très, très liés cash flow. Si on prend l'exemple de la rémunération proprement dit, ben on a certains clients là, qui ont des grosses vagues d'embauche à faire par une forte croissance ou d'autres qui ont des ajustements de masse salariale à faire à cause de la situation ou de la compétition sur le marché de l'emploi. Les employeurs qui payent plus, il y a des employeurs, avant, on parlait de géographie tantôt, hein, mais dans le domaine des services, dans le domaine de la technologie, la géographie, ça n'a plus vraiment d'impact. Hein. L'entreprise de Montréal peut engager quelqu'un en Europe, aux États-Unis, mais quelqu'un du Québec peut se faire embaucher par une entreprise d'Europe, des États-Unis. Donc, ça vient mettre une pression parce que quand ton salaire annuel est maintenant possible de le gagner en US, ben là, ton employeur au Québec là, qui doit jouer avec ce 15-20%-là, c'est là que les autres éléments d'emploi vont probablement avoir un impact favorable, mais au niveau strictement financier, là, c'est des grosses questions qu'il faut se poser.
Ce qui nous amène un peu plus vers le sujet de l'équité salariale. Comment est-ce qu'on assure une certaine équité à l'interne? T'sais, je prends comme exemple, je reviens à mon exemple de tantôt d'une entreprise que ça fait plusieurs décennies qui est là. J'ai des gens qui sont là depuis le début. Et pour que je m'adapte au marché, ben là, comment je fais pour assurer une équité que la personne que j'embauche demande un salaire X qui, pour la personne qui fait 20 ans qui travaille pour moi, ben comment est-ce que j'assure une équité à ce niveau-là, au niveau de l'expérience et tout?
C'est sûr que ça demeure des défis quand même qui sont très importants à l'heure actuelle avec tout le contexte. On sait, pour aller chercher de la main-d'œuvre, des fois, faut étirer un petit peu le portefeuille là. Donc effectivement, mais il y a des façons agiles, je pense, de maintenir une forme d'équité. On voit de plus en plus des approches comme avoir une enveloppe de rattrapage annuelle pour justement.
C'est quoi ça? Oui, c'est ça. J'en
entends ça. Une enveloppe de rattrapage, c'est de dire par exemple, tu sais, j'ai quelqu'un de l'externe qui vient, puis là, je sens que mon équipe, peut-être, j'ai des réajustements pour m'assurer que mon équité est maintenue. Dans le fond, annuellement, tu sais, on a les révisions normales, l'augmentation IPC que vous connaissez, mais à ça, on peut s'ajouter une enveloppe, mettons, on peut parler pour une règle du pouce de 0,2% et 0,5% qu'on garde pour des rattrapages qui pourraient être faits de manière proactive pour des réajustements d'équité, justement.
Pour tes anciens ou pour tes nouveaux?
Pour ceux qui sont actuellement en place, parce que la pression de quelqu'un qui arrive de l'externe fait en sorte qu'il y en a peut-être qui doivent être réajustés dans l'ensemble de mon équipe. Donc, tu sais, on sait, les gens se parlent de leur salaire. Fait que, oui. Tu sais, autrement dit, tu sais, ayons peut-être des approches peut-être un peu plus, je dirais, agiles. Et ce qu'on voit beaucoup de plus en plus, c'est des bonus de signature, des choses de référencement. Donc, c'est tout, ces bonus de signature, c'est que j'ai laissé un boni probablement de mon ancien employeur. Okay. Donc, tu sais, pour attirer le candidat chez nous, plutôt que juste augmenter, je dis juste, mais c'est d'augmenter le salaire, on va aller vers d'autres alternatives pour rééquilibrer mm-hmm. ou peut-être atteindre un petit peu les attentes de... au niveau de la rémunération au sens large que ce que le candidat s'attend de l'employeur, par exemple.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a des candidats qui justement, vont être sur le point d'avoir leur boni annuel, vont peut-être se désister pour l'offre dans le but, tu sais, justement, de ne pas perdre ce boni-là. Fait que ça, c'est une avenue super intéressante pour attirer des candidats comme dans l'urgence.
Oui. Je ne vais pas casser le party, par exemple. Je ne vais pas casser le party, mais mettons, moi, je pense à mes clients, OK? Ouais. Mini manufacturier, PME, ils n'ont pas plus d'argent.
Non.
Fait que là, mettons, j'ai pas plus d'argent que ça. C'est bien beau faire ça, mais des fois, j'en ai pas plus. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Tu sais, des fois, t'es jackknife, là. Mm. Puis moi, je dis tout le temps, OK, ben on va être créatif, on va... Mais mettons, j'ai pas plus d'argent, je peux pas augmenter mes salaires, je compétine contre des grosses entreprises. C'est quoi la solution? Parce qu'à un moment donné...
Ben c'est sûr qu'en rémunération, là, je pense qu'une des clés, c'est qu'il faut beaucoup travailler les perceptions des employés. Tu sais, en fait, tu sais, ben moi j'ai la perception que je vais être moins bien payé. J'ai d'ailleurs fait avec des entreprises manufacturières augmenter peut-être les mécaniciens les salaires parce qu'ils étaient un petit peu en deçà. Après ça, c'est de voir c'est quoi nos alternatives. Est-ce que je peux augmenter le coût, par exemple, au coûtant, tu sais, à mon client, finalement.
Ça se voit-tu, ça? J'essaye, mais c'est
ça. Bien, c'est des questions qu'il faut se poser parce que si les salaires font juste augmenter, il y a des entreprises qui ont des bonnes rentabilités qui peuvent se permettre de partager les profits avec leurs employés en augmentant la masse salariale. Mm-hmm. Quand on travaille dans un contexte, tu sais, manufacturier, des fois, des marges de profit sont plus minces, c'est une question de volume. Augmenter la masse salariale de 10% en une année ou deux, ça peut faire très, très mal. Mais c'est une belle occasion de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à l'interne qui pourrait être mieux fait, qui pourrait être amélioré? Des fois, c'est des équipements qui sont désuets, juste des positions de travail. Des fois, là, on rentre dans l'ergonomie, mais des fois, juste réorganiser l'espace de travail, l'aménagement, ça va changer, ça va couper les pertes de temps, ça va augmenter la productivité. Est-ce qu'on peut retravailler avec nos fournisseurs d'une certaine façon pour ajuster nos coûts de production? Est-ce qu'on peut parler avec nos clients? Des fois, il y a de la place sur le marché aussi pour augmenter. C'est comme un immeuble à revenus. Hein? Quand ton locataire, ça fait 30 ans qu'il est là, bien, à coût de 2%, ça ne monte pas vite. Mais des fois, les clients, ils savent que s'ils allaient ailleurs,
ça
leur coûterait beaucoup plus cher. Fait que des fois, il y a de la place pour ça, mais c'est toutes des avenues qu'il faut regarder.
Puis, effectivement. Selon vous, en tant que spécialiste, est-ce qu'on devrait le dire upfront les salaires à nos équipes?
C'est une excellente question. en fond, on appelle tout le niveau de transparence. En fait, jusqu'où on va avec ce qu'on donne comme information à nos employés. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est de se poser la question, moi, comme employeur, est-ce que c'est quelque chose que je veux me distinguer, la transparence? Est-ce que je veux établir le positionnement? Est-ce que je veux le communiquer? Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de recette, mais après ça, il faut avoir un plan parce qu'évidemment, c'est la théorie des petits pas. Faut mettre des fondations. Ouais. Tu sais, est-ce que j'ai une structure salariale actuellement en place? Puis après ça, est-ce que je l'ai communiqué? Est-ce que est-ce que j'ai une politique aussi d'augmentation? Sur quels critères je me base? Donc, la transparence, c'est très vaste. Mais est-ce qu'aussi on communique la rémunération globale annuellement aussi à nos employés? Qu'est-ce que je paye, moi, comme employeur, auprès de l'employé, de chacun des employés? Il y a des fiches aussi de rémunération globale qu'on voit de plus en plus personnalisées à chacun, à chaque employé. Donc, je vous dirais qu'il y a un spectre de transparence. Puis, tu sais, je pense que c'est se poser la question, nous, comme employeurs, est-ce que c'est un élément qu'on préconise? Puis, on parle de rémunération, mais c'est de transparence dans les décisions d'affaires, dans plein d'autres sphères des ressources humaines au sens de la gestion. Donc, tu sais, je dirais, tu sais, la transparence vers où on veut aller, puis peut-être se faire un plan de match, tu sais, puis aller avec la théorie des petits pas, parce que c'est vrai que d'ouvrir les salaires sans avoir travaillé sur une structure qui est équitable, avoir établi et, tu sais, je dirais, sensibiliser les employés sur comment que ça fonctionne, tu sais, c'est peut-être un petit peu plus risqué là, à ce moment-là.
Puis on se rappelle aussi que la rémunération, c'est pas juste le salaire. Il y a aussi d'autres choses qui viennent avec, qui peuvent être des avantages pour l'employé de rester, pour le recrutement. Puis c'est pas juste le salaire. Il y a plein de petits à côté que nous, dans notre industrie, notre jargon, on appelle ça des perks.
Ouais.
Mais tu sais, tout ça, au bout du compte, tu le payes quand même.
Tout à fait.
Puis moi, j'aimerais ça aussi, tu sais, terminer peut-être ce segment-là en vous challengeant. Je parle avec beaucoup de chefs d'entreprise. On fait énormément de conférences dernièrement auprès des chefs d'entreprise. Puis il y en a beaucoup qui donnent, mettons, pour une certaine génération, ben moi, ça va être toutes des assurances. Pour une autre génération, ben ça convient pas donner 100 % des assurances, puis ça coûte tellement cher. Puis ça s'adresse pas, dans le fond, à toutes les générations. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible de faire une rémunération comme à la carte pour dire, hey, vous êtes les boomers, vous voulez, mettons, full assurance, ben go, mais la génération qui vient de rentrer sur le marché du travail, vous voulez beaucoup de flexibilité. Fait qu'au bout du compte, prendre le même montant que tu dépenserais, investirais, mais que tu le répartis créativement, moi, ça serait comme ma solution en recrutement, mais est-ce que ça se fait tangiblement?
Oui, ça se fait. Je pense, tu sais... T'sais, la PME a l'avantage d'être près de ses employés. T'sais, je pense que la première chose, c'est ma population veut quoi? T'sais, est-ce que elle est ouverte à aller vers une rémunération à la carte? T'sais, dans le fond, peut-être avoir un petit programme d'assurance qu'on va appeler catastrophe, un peu moins généreux, puis peut-être avoir... je pense que l'idée, on peut faire ça, effectivement. L'idée, c'est de s'assurer que ça soit équitable au final, puis d'être à l'écoute de nos employés. Je pense que ça serait peut-être l'élément que je préconiserais, parce que, tu sais, on peut être près des employés. Donc, tu sais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des sondés, puis de voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser, parce que c'est une enveloppe, hein. On sait que c'est un coût X, puis on veut avoir le plus d'impact possible avec ce coût. Fait que comment on peut le mieux l'adapter, comme tu dis, pour que ça réponde aux besoins? Tu sais, moi, je dirais que, tu sais, d'être à l'écoute, tu sais, des fois, des focus group, de vraiment, là, bien comprendre ce qu'ils veulent, puis c'est quoi leurs besoins, puis après ça, on s'adapte en fonction de la population qu'on a dans notre organisation, puis ce qu'on veut aussi, parce que c'est une combinaison entre les besoins de l'employé et les besoins aussi que ce que nous, comme employeur, on veut communiquer puis attirer aussi d'autres candidats à l'externe. Donc, moi, j'irais peut-être avec l'approche de peut-être solliciter, en fait, regarder ce que les employés veulent. Puis en même temps, rémunération à la carte, on le voit de plus en plus, on parle beaucoup plus de flexibilité. Donc, effectivement, est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Il y en a encore très peu. Je pense que, tu sais, on va y aller progressivement, mais de plus en plus d'entreprises s'intéressent à avoir une forme de rémunération qui est comme une somme. Puis après ça, l'employé choisit s'il prend tel aspect, puis le montant total est le même au final.
Puis moi, je fais tout le temps, dans nos formations qu'on fait, là, je fais tout le temps comme une parenthèse au cycle de la vie. Mettons, t'arrives, t'es sur le marché du travail, t'es un cheval de course, tu veux donner ton 100 %, tu veux du cash, tu veux te donner. Après ça, là, on généralise, mettons, là, au maximum. Après ça, t'as des enfants, ben ils vont à la garderie, tu veux de la flexibilité, si arrive quoi que ce soit, tu vas avoir des journées en banque. Après ça, ben tes enfants sont un petit peu plus vieux, t'es ton pic de ta carrière, t'es ton cheval de course, tu veux tout donner avant de ralentir. Puis à la fin, ben tu penses à ta retraite, tu veux un 4 jours, tu veux plus relaxer, tu veux de la stabilité, puis peut-être plus d'assurance, puis un fonds de pension. Mais si on se fie au cycle comme ça, tu sais, la généralité des gens, ben je pense qu'il faudrait adapter la rémunération pour mieux recruter, puis pour donner le même montant d'argent, mais spécifiquement selon les besoins. Mais réalistiquement parlant, mon CFO, il en penserait quoi?
Ben, ça va être le fun de faire des prévisions, hein? T'engages-tu quelqu'un de 30 ans, quelqu'un de 50 ans? Ça va être... Non, mais je pense que T'sais, financièrement parlant, c'est l'important, c'est de tenir compte de l'ensemble, justement, de pas juste la rémunération proprement dit, mais est-ce qu'il y a des contributions CELI, est-ce qu'il y a des contributions REER, les assurances maladies, ça coûte une petite fortune, les assurances salaires. Donc, tous ces éléments-là, ça s'ajoute aussi au salaire. Donc, quand on fait des prévisions, c'est pas parce qu'on paye quelqu'un X dollars que c'est ça que ça coûte. Ça coûte X plus
c'est ça, hein?
Un c'est ça, pourcentage.
Puis ça, on y pense pas, hein, des fois.
Il faut y penser. Il faut y penser. Parce que ça fait une bonne différence. Un, c'est pas si pire. Deux, trois, quatre, cinq, dix employés. Puis quand on fait des augmentations de salaire, ben, il faut penser que si on donne un pourcentage fixe du salaire annuel, ben, si on augmente le salaire de 5 %, ben, cet avantage-là augmente aussi de 5 %. Donc, c'est tous les éléments qu'il faut tenir compte.
Parlons-en de ça, le pourcentage d'augmentation annuelle qui est souvent communiqué à un moment de l'année, là, par, entre autres par le CRHA. Là. C'est basé sur quoi, ces augmentations-là, ces pourcentages-là?
En fait, c'est souvent des employeurs qui vont compléter qu'est-ce qu'ils prévoient donner comme augmentation à leurs employés. Souvent, c'est à l'été. Puis, ça sort à quelque part souvent à l'automne.
C'est ça, conseil,
c'est à l'automne. Et donc, c'est souvent le conseil du patronat, l'ordre des CRHA. Mais c'est ce que les employeurs prévoient donner comme augmentation. Mm-hmm. Donc, souvent, c'est important avec la pandémie de regarder le secteur nous est propre. Mm-hmm. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de différences entre je suis dans les technologies de l'information ou je vais aller à l'opposé, mais dans le secteur culturel, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est important de regarder puis de justement s'appuyer sur concrètement qu'est-ce que les employeurs veulent donner pour la prochaine année en termes d'augmentation. C'est sûr qu'on a connu dans les derniers, on est autour du à peu près 2,5 %, tu sais, ça varie autour de ça. Donc, il faut, tu sais, comme tantôt, je parlais d'une enveloppe de rattrapage qui pourrait être additionnée à ça, parce qu'évidemment, c'est très peu, là, tu sais, fait que, sauf que quand on parle des assurances, quand on communique, qu'on remet un peu le lustre de tous les autres éléments de rémunération et à laquelle on peut se distinguer, je pense que c'est là aussi, où on devient de plus en plus gagnant là, comme PME. Là.
Tout à fait. Fait qu'on termine ce segment-là avec la capsule de Rosine sur les trois must. Restez avec nous parce qu'après, on a le crunchy du crunchy. La question que tout le monde se demande, est-ce qu'on affiche les salaires sur les descriptions de poste? Puis qu'est-ce que je fais si la nouvelle personne que j'embauche vaut 10 000 de plus versus ma gang à l'interne? Il me faut cette personne-là, j'ai pas le choix. Fait que restez avec nous, on est avec Simon Jodoin et Arline Trudel.
L'agent Charlie est fier de vous présenter les trois mosses pour assurer une bonne rémunération. Premièrement, c'est pas seulement un salaire, mais bien des aspects non pécuniaires tels que le climat de travail. Deuxièmement, benchmarking. Soyez à l'affût des salaires de votre industrie. Et troisièmement, n'attendez pas que quelqu'un quitte pour lui offrir une augmentation de salaire. Pour en savoir davantage sur nos services de formation en entreprise, rendez-vous sur agencecharlie.com. Et pour du contenu exclusif du sujet d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre Patreon.
Alors, je vous rappelle qu'on est à l'expérience Agence Charlie avec nos deux invités experts de marque, Simon Jodoin, CFO pour entreprise de chez Apex, direction financière, et Arline Trudel, notre experte en rémunération de chez Rémunération Éco. Pas besoin de prendre de notes, les coordonnées de nos invités seront sous toutes les capsules et vous allez toutes revoir le recap de tout ce qu'on dit sur nos médias sociaux, Roselyne.
Oui, en fait, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Et pour avoir plus de contenu exclusif ou quoi que ce soit, ben abonnez-vous à notre Patreon.
Dans ce petit segment-ci, on peut se faire un cheers, hein? Je pense qu'on le mérite. Ouais, merci beaucoup d'être là, groupe. Arlène et moi, on fait un petit chin de vin blanc.
Alors, santé.
Notre commanditaire.
Alors, c'est les vins Olcades, qui est un distributeur, un importateur de vins privés. Donc, merci pour la commandite. Et on a aussi les bières non alcoolisées de Buck Ale, une entreprise d'ici qui est située à Drummondville. Donc,
Active Group, merci d'être
santé.
Là.
Santé.
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 Comment rendre le sujet de la rémunération plus festif?
Écoutez, ça va
avec
être
un bon verre de vin.
Fait comme qu'on vous l'avait promis, moi, je veux qu'on mette dans le croustillant parce qu'en ce moment, c'est l'enjeu du moment. Nous, en tant qu'agence de recrutement, tout ce qu'on fait, ça mène là. Puis ça a été aussi pourquoi qu'on a décidé de faire cette capsule-là. J'engage quelqu'un. En ce moment, le marché du recrutement est aussi effervescent que le marché immobilier. Ça n'a aucun sens. C'est surenchère, contre-offre. Puis là, à un moment donné, ben, en tant qu'employeur, tu es au maximum que tu peux aller. Qu'est-ce que je fais? Puis là, je veux voir point de vue employeur, direction, puis point de vue Arline qui va me trouver des solutions. Qu'est-ce que je fais si j'engage quelqu'un? Cette personne-là demande 10 000 $ de plus que mon équipe, que mes gens qui sont là, que mes vieux de la vieille. Qu'est-ce que je fais?
Bien, la première chose, c'est est-ce que c'est un contrat temporaire? Si, tu sais, c'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur, puis c'est pour une durée, par exemple, un congé de maternité ou quoi que ce soit, on peut ajouter des primes de rétention qu'on appelle. Alors, tu as le salaire de base de la personne. Et après, par exemple, 6 mois et à la fin de son contrat, tu peux prévoir des montants additionnels pour peut-être aller chercher l'enveloppe globale que le candidat aurait. L'avantage que ça l'aurait, c'est que la perception des employés qui sont en place, bien, on ne vient pas mettre un salaire trop agressif parce qu'on ne sait pas non plus ce que la personne vaut. Par contre, souvent, on va aller chercher quelqu'un qui a plus d'années d'expérience parce que c'est momentané, c'est pendant un an. Alors, souvent, on veut que la personne soit opérationnelle plus rapidement. Donc, ça se peut qu'elle ait plus d'années d'expérience que la personne en place. Mm-hmm. Mais encore là, il faut faire attention avec les gens puis les perceptions en rémunération. Alors ça peut être une belle avenue, tu sais, peut-être à utiliser. Puis on sait qu'en plus, on est vulnérable quand, dans le fond, cette personne-là quitterait, par exemple, pendant la durée du contrat. Donc ça peut être une approche.
Well. À l'agence Charlie, on fait que du recrutement permanent, so pour nos clients, là, pour toute la tu sais, nous, on sait recrutement permanent, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, moi, je le vis, je te le dis à chaque fois qu'on a un contrat, qu'on négocie un offre. À ce moment-là, c'est ça.
Je pense qu'il faut aussi voir, tu sais, c'est quoi le signal qu'on envoie à la personne si on l'embauche 10 000 de plus? Puis encore là, tantôt, on a parlé d'une enveloppe de rattrapage. Donc, si on embauche la personne 10 000 de plus puis que ça défait, excusez l'expression, un peu notre équité, bien, il faudrait regarder peut-être les gens à l'intérieur de l'équipe puis voir est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être ajustés, mettons, en cours de route ou en cours d'année là, à ce moment-là, parce qu'on n'a pas le choix. L'autre solution que peut-être que j'aurais, c'est, on voit beaucoup ça dans les technologies de l'information, c'est d'avoir une prime de rareté, qui est un autre.
C'est quoi ça?
Déjà là, c'est une prime de rareté, je trouve que c'est
flattant. Oui, c'est ça.
C'est un beau nom, hein?
Oui, c'est ça. C'est ça, on voit souvent ça quand c'est des postes en forte pénurie, puis en fait, c'est très critique pour les besoins de l'entreprise. Ça va arriver qu'on va avoir le salaire de base, puis on va mettre une prime de rareté. Par exemple, on a eu l'époque des SharePoint, où on voulait tout faire nos sites Internet. Donc, tout le monde s'arrachait ces gens-là, cette expertise-là. Mais évidemment, c'est momentané. Fait qu'à ce moment-là, ça redescend. Fait qu'on pourrait, par exemple, opter vers une prime de rareté pour des cas très pointus, des éléments plus spécialisés là, qu'on verrait, par exemple, dans le marché, qui pourrait peut-être être une autre solution.
Un peu comme il y a une entreprise qui a fait durant la COVID, justement, parce qu'elle a la difficulté à aller chercher des commis, de faire une prime COVID,
oui,
justement, qui était comme un 2 $ additionnel de l'heure.
Tout à fait.
Comment on gère ça? Est-ce que c'est momentané un peu? Comment qu'on gère ça?
Bien, les primes COVID, ça dépend du contexte. On va voir aussi de plus en plus, les gens vont aussi re-questionner leur prime de soir, leur prime de chef d'équipe, justement pour essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres façons de repenser le salaire, mais aussi tout ce qui gravite autour. On va voir beaucoup ça, évidemment, dans le domaine manufacturier. Mais pour les primes COVID, souvent, c'est momentané. En fait, c'est pour une contrainte X. Puis après ça, bien, si la contrainte n'est plus là, bien là, à ce moment-là, c'est de voir est-ce que, dans le fond, c'est toujours utile de reconduire cette prime-là. Mais évidemment, à la base, c'est pour, sais, que ça soit transparent pour l'employé, puis qu'il soit en mesure de se dire, est-ce que, dans le fond, cette prime-là est toujours utile, est-ce qu'on la reconduit, mais il faut que les employés soient au courant là, que c'est pas ajouté au salaire, mais c'est vraiment quelque chose qui est en surplus du salaire de base.
CFO. C'est quoi, what's the strategy? C'est quoi la stratégie quand ça arrive? Parce que ça arrive, là. Fait que ouais. Moi, je veux savoir, point de vue stratégique, direction, bien, qu'est-ce qu'on fait?
10 000, c'est un chiffre. 10 000 sur 40 000, c'est un gros pourcentage. 10 000 sur 150 000, c'est un petit pourcentage.
Ah, j'aime ça, ça. Fait,
tu sais, ça va dépendre de la marge de manœuvre. Je pense que quand tu embauches, faut que tu sois un peu prêt à ça parce que tu sais pas qui tu vas embaucher. J'espère que tu as fait un peu des recherches à savoir qui t'a embauché, c'était quoi un peu le salaire du marché pour ce poste-là. Mais oui, effectivement, tu peux avoir une balle courbe qui arrive puis quelqu'un qui dit, ben, je veux beaucoup plus. Là, je pense en tant qu'employeur, après ça, financièrement, il faut que tu sois responsable de dire, est-ce que je pense que cet investissement-là va générer la plus-value que je suis en train
c'est
de
ça,
mettre.
C'est ça, c'est l'investissement, là.
Mais ça, c'est la grosse question, puis on est dans l'inconnu. Fait, est-ce qu'il y a moyen de faire un contrat d'emploi avec l'employé pour dire, ben regarde, ça m'intéresse beaucoup, je veux qu'on travaille ensemble. Par contre, à ce stade-ci, je vais avoir besoin d'un petit peu d'assurance. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente avec un bonus après 6 mois ou après 3 mois ou après 1 an ou peu importe? Aller peut-être différer un peu, dire, regarde, ça m'intéresse, je veux mettre l'argent, cet argent-là sur toi parce que je pense que tu peux m'apporter une plus-value. Par contre, j'aimerais ça avoir un minimum d'assurance pour pas que dans 6 mois, ben, ça soit recommencé. Fait qu'il y a peut-être moyen de trouver des terrains d'entente. Je pense qu'il faut se préparer à ça. Puis, malheureusement,
J'aime vraiment ça. Le 10 000, c'est pas la même affaire quand t'as 40 000 que quand t'as un salaire à 150 000. C'est tellement vrai, puis on s'en rend pas compte. Puis souvent, c'est ça, tu sais. Il y a un candidat qui est allé à 2 entrevues, il y a 2 offres en même temps, puis là, tout le monde est normal. Là, la plupart des gens vont vers l'offre la plus alléchante. Puis qu'est-ce qui arrive si j'ai pas d'argent pour le donner, ce 10 000-là? Ça jambe tout à l'interne?
Bien, là, après ça, c'est l'impact. Tu sais, le 10 000 sur une personne, si tu n'as pas les moyens de te payer ce 10 000-là, il y a d'autres choses qu'il faut regarder ensemble avant d'aller engager cette personne-là.
Appelez Simon, s'il vous plaît.
Mais c'est l'impact, après ça, sur toute l'équité. Parce que si tu dis, ben c'est un poste à un salaire X, mais là, finalement, c'est X plus 10 000 qu'il faut que je paye, ben c'est quoi l'impact sur le reste de la masse salariale? Parce que effectivement, là, il y a des questions d'équité puis tout ça. Ça va engendrer quoi comme dépenses supplémentaires sur le reste de mes employés qui ont des postes similaires? Fait que ça, c'est une question. Tu sais, il y a le 10 000 là sur cette personne-là, mais il y a le 10 000 sur les autres aussi. Ça va être quelque chose à réfléchir.
C'est quoi la marge salariale qu'on devrait payer versus les revenus? Y a-t-il comme un chiffre magique ou il n'y a pas de chiffre magique?
Non.
T'sais, des fois, je me dis... des fois, là, quand tu fais tes états financiers, tu dis, bon, ben, le marketing, c'est X pourcentage de tes ventes, ça, c'est ça. Mais ben, y en a-t-il un pour le salaire?
Une entreprise de service, une entreprise en technologie, une entreprise en agroalimentaire, une entreprise de fabrication vont tous avoir des ratios qui vont se ressembler d'une industrie à l'autre, mais ça va dépendre d'une entreprise technologique qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements au départ. Puis une fois que c'est parti, bien après ça, les revenus augmentent, la masse salariale ne suit pas nécessairement. Une entreprise de service, ça suit. C'est la courbe qui suit un et l'autre. Une entreprise de fabrication, la masse salariale, c'est pas toujours la plus grosse dépense de l'entreprise. Fait que des fois, si l'impact est moins grand dans ce type d'entreprise-là, si on dit que le coût de fabrication inclut peu de main-d'œuvre, bien là, ça va avoir peut-être un moins gros impact.
J'aime ça.
Mais mettons, si on fait le contraire, là, je fais un peu l'avocat du
diable. Oh, girl!
Oh, I'm a devil advocate! là, tu as la personne que tu veux embaucher qui demande 10 000 de plus que tes gens déjà à l'interne. Advenant le cas que quelqu'un quitte la contre-offre, comment on gère ça? Si la personne, justement, se fait offrir 10 000, même des fois 15 000 de plus que ce qu'on lui offrait?
Bien, financièrement, ça va être la même question. Personnellement, je pense que la question financière dans une situation comme ça n'a pas vraiment d'impact. C'est est-ce que la personne va rester pour 10 000 de plus? Si sa décision est déjà prise, les chances que cette personne-là revienne sont grandes, mais est-ce qu'elle va rester? Ça, c'est une question qu'il va falloir se poser. Personnellement, quelqu'un qui qui quittent pour une question de salaire, probablement, on s'entend, si c'est un salaire, les salaires plus bas, l'impact du salaire est significatif, puis c'est une question de vie ou de mort. Quelqu'un qui gagne 80 000 puis qui change pour aller à un emploi à 85 000, je pense pas que c'est le 5 ou le 7 000 qui va le faire rester plus longtemps si la décision dans sa tête est prise.
C'est ça, j'allais dire. Puis en même temps, tu sais, je pensais pas qu'on allait glisser par là, mais tu sais, si on fait une petite parenthèse, nous, là, on le voit, quand les gens, mettons, ils arrivent pour quitter, ils donnent leur démission, ils se font donner, puis c'est tout le temps, on y va avec le 10 000, là. C'est tout le temps 10 000 de plus. Quand la personne reste, là, même quand on va la chercher en recrutement, quand on est dans un processus, 100 % des cas, la personne, elle va quitter à l'intérieur d'un an. Parce que
c'est juste
ton « why », pourquoi tu voulais quitter, ces raisons-là sont pas achetables. Fait qu'à un moment donné, après que tu sois comme rassasié de ton 10 000, tout ce qui gossait, ça te pèse quand même
ça sur le piton. Ça continue de gosser.
Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vrai. Quand tu as 40 à 50 000, hey, c'est un gros step. C'est de la grosse argent pour des postes comme ça. C'est pas la même affaire, mais quand c'est d'autres, d'un poste professionnel spécialisé, la raison pour laquelle, fait que je pense que quand t'as une contre-offre à ce niveau-là, moi, je le dis tout le temps, puis on challenge nos candidats quand on fait une contre-offre. Quand tu vas donner ta démission, là, sois prête à quitter. Parce que même si c'est 10 000 de plus, tu fais juste retarder le moment auquel tu quittes. Fait que rendu là, ça n'a pas vraiment d'impact à ce niveau-là. Puis nous, c'est qu'est-ce qu'on conseille? Parce que même si les gens disent, ah, finalement, tu dis quoi, je continuerai pas, ils me rappellent dans 6 mois, puis ah, pourquoi je t'avais appelé au début, ça me tente encore, ben oui, tu sais.
Puis pas rien que ça, je pourrais en chérir plus aussi. Quelqu'un qui donne sa démission puis qui se fait faire une contre-offre, tu sais, ça positionne un peu le candidat puis l'employé dans mais pourquoi attendre que je m'en aille pour justement qu'on que ma valorisation soit mise sur la table? Tu sais, pourquoi attendre ce moment-là?
Fait que tu viens de briser la relation de confiance un peu. C'est ça. Fait que financièrement, c'est un mauvais investissement d'aller faire la contre-offre.
Exactement.
Avec tout ce qu'on vient de se dire, ça fait de moins en moins de sens.
Donc, toi, Arlene, que dirais-tu à un employeur qui, justement, fait un peu action dans la contre-offre, justement, quand un employé s'en va, de donner l'augmentation ou de donner sa valeur à ce moment-là, puis de pas lui donner avant?
Bien, c'est sûr que, tu sais, comme on disait, c'est quoi le signal que j'envoie à l'employé, là, tu sais? Au départ, tu sais, on parlait du lien de confiance. Je pense que ça a été brimé un peu parce que si je suis prête à lui donner le 10 ou 15 000 de plus, c'est parce que dans les derniers mois, pourquoi je n'ai pas donné avant puis que je n'ai pas été proactive?
Pourquoi je n'ai pas donné avant? J'aime vraiment
c'est ça. Tu sais, fait que, puis tu sais, j'ai des gens près de moi qui se sont fait offrir des offres de cet ordre-là, puis finalement, les gens ont décidé de partir quand même. Mm-hmm. Ça faisait 3 mois que la personne est là. Tu sais, je pense qu'il faut, comme employeur, faire ses devoirs, tu sais, être proactif quand qu'on... puis peut-être que c'est correct aussi de ne pas lui donner parce que ça ne respecte pas notre équité interne, parce qu'on n'est pas prêt à aller jusque-là. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, mais des fois, tu sais, comme on l'a dit, il y a déjà un processus que la personne a fait dans sa tête, puis elle est peut-être, tu sais, pas loin de partir. Fait que, tu sais, c'est pas... on dit toujours que le salaire, c'est tu retiens ça pendant 2 semaines, puis après ça, c'est oublié. Fait que, on parlait qu'après un an, des fois, les gens oublient, en fait, ben c'est normal parce que 2 semaines, une augmentation, après ça, c'est oublié. Mm-hmm. Ce qu'on va se rappeler, c'est que le lien de confiance, comme Simon l'a dit, qui a été brimé là, parce que, dans le fond, pourquoi je ne l'ai pas eu avant, finalement? Là,
tout à fait. J'adore.
Ouais.
J'adore tout ce que tu viens de dire. Là. On dirait que je prends des petites étincelles, puis en même temps, je sais qu'en tant qu'employeur, on a tellement beaucoup de dépenses. Mais pourquoi qu'on leur donne pas avant qu'ils nous le demandent ou avant qu'ils quittent? Tu sais, à un moment donné, là, on a eu la conversation au téléphone, puis je te disais, bon, mais mettons, moi, j'ai une de mes employées, je le sens là, qu'elle est prête à un nouveau défi ou à une augmentation. Mais pourquoi qu'en tant qu'employeur, on fait juste pas y donner, excusez-moi, au contraire, tout de suite, pour pas que la personne quitte, puis on attend de se mettre au pied du mur? Tu sais, je comprends la question, là.
Parce que beaucoup dans les années passées, beaucoup ce qui se disait c'était OK, ben moi j'ai investi dans cet employé là, donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu vas me rapporter avant de te donner. Donc je vais te donner un salaire mais on va réévaluer puis on va voir qu'est-ce que tu me rapportes. C'est comme un investissement, c'est comme si c'était un produit finalement dans lequel tu investis. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. On est plus fragile. Puis si j'attends, l'employé me donne la démission, je fais une contre-offre, bien là, si la personne accepte, comment que je gère toutes les autres qui vont savoir, ah, finalement, il est resté, il s'est fait faire une contre-offre. C'est sûr que les gens sont pas fous. Ils savent très bien qu'il y a une augmentation de salaire en jeu. Donc, là, ils vont vouloir faire la même chose. Fait que c'est comme un cycle qui finit plus. Qu'est-ce que tu dirais à un gestionnaire, justement, pour éviter ça? Ce serait quoi le conseil d'or?
Bien, moi, je pense que, tu sais, quand les balises, tu sais, sont bien circonscrites, quand on a une équité, tu sais, est toute claire, tu sais, après ça, tu sais, pourquoi, pour faire venir, tu sais, dans le fond, pourquoi perdre quelqu'un? Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut, comment je dirais bien ça, tu sais, il faut que la personne, tu sais, apporte une valeur, puis dans certains cas, c'est correct aussi de perdre des gens, d'en avoir du sang neuf qui rentre aussi. Mais je pense qu'il y a toute l'émotivité, je pense, du gestionnaire qu'il faut. Puis là, c'est peut-être mon rôle de psy, là. Non, mais tu sais, je pense que l'émotivité, il faut l'enlever de l'équation puis regarder, tu sais, dans notre structure, est-ce que c'est correct qu'on offre ce salaire-là à cette personne-là? Est-ce qu'on est capable aussi de se le permettre? Puis après ça, est-ce qu'on veut aussi envoyer le message aux employés, aux autres, puis même à cette personne-là? Que finalement, c'est peut-être correct le salaire qu'elle a. Puis des fois, tu sais, faut je pense, aussi marketer tous les autres éléments qui gravitent autour de la... On n'a pas beaucoup parlé, mais tout ce qui gravite autour, c'est quoi? Pourquoi tu es venu travailler chez nous? Tu sais, est-ce que c'est nécessairement juste l'aspect salarial, tu sais? Puis moi, je pense que ces conversations-là, c'est pas juste quand il arrive des contre-offres. Je pense qu'il faut avoir ces conversations-là salariales plus qu'une fois par année, pour être à l'écoute, justement. Tu sais, il y a peut-être des signes que l'employé t'a envoyé avant qui pouvaient te permettre de dire, OK, est en signe, de peut-être qu'elle regarde ailleurs, tu sais. Est-ce qu'on peut avoir ces talks-là, excusez l'expression, mais avant qu'arrive une contre-offre, puis tu sais, d'être plutôt réactif plutôt que proactif.
Donc, la fameuse évaluation,
oui,
elle est encore très actuelle et très importante dans une entreprise.
Oui, tout à fait. Fait que j'irais plus, comment on peut être plus proactif dans nos questions de rémunération?
Je pense que l'évaluation devrait être plus qu'une fois par année dans ce contexte-là. Ouais, d'avoir des discussions informelles. Puis de
façon continuelle.
Hein? Exactement. Pas juste d'attendre.
Ouais.
C'est le 15 août, ta date d'évaluation, on en parlera le 15.
Oui, c'est ça.
Puis on s'entend, là, on est après la pandémie mondiale. Là. Je pense que ça, là, ça doit se faire tout le temps là. Toutes les entreprises au Québec, là. On est dans un air nouveau, la RENUM, on s'assit puis on revoit tout, surtout là avec le marché qui est tellement effervescent. Puis j'aimerais ça aussi vous demander une question que moi, je me fais toujours poser. Le salaire, stratégiquement parlant, puis expérience RENUM, est-ce que je l'affiche ou pas? Puis si oui, quand? Puis sinon, pourquoi?
C'est très tabou, hein, l'argent au Québec.
C'est tellement tabou.
C'est incroyable.
On voit souvent c'est les offres d'emploi du secteur public où le salaire est connu d'avance. Mm-hmm. Fait que ça, on le sait que c'est de 55 812,13 à 63 415,29. C'est défini. Quand il y a des barèmes clairement définis, ça va être affiché. Je pense que stratégiquement parlant, ben il faut qu'en tant qu'entreprise, tu saches où tu t'en vas puis c'est quoi ta marge de manœuvre. Mais est-ce que tu te fermes la porte en l'affichant? C'est une question qui est très, très bonne à poser. Je pense qu'il faut juste que tu saches où tu t'en vas et jusqu'où tu es prêt à payer. On a des clients qui n'ont jamais affiché, mais qui ont refusé des candidats parce que le candidat gagnait trop selon leur impression personnelle. Mais s'ils avaient affiché, ils ne se seraient pas rivés. T'sais, ils n'auraient pas perdu une heure de leur temps, chacun de leur côté, à se rencontrer. Mm. Par contre, s'il avait affiché un salaire dans une braquette qui est inférieur à quelqu'un qui fit avec l'entreprise, puis finalement, cette personne-là dit « Ben là, c'est bien trop bas, j'appliquerai pas. » Mais l'entreprise est prête à payer pour. Je pense que c'est un couteau à double tranchant.
Le CFO en toi puis le chef d'entreprise en toi, ils disent quoi? Ils disent-tu la même chose?
Ben, je pense que c'est plus une question de je pense que c'est plus une question de RH qu'une question financière, l'affichage.
Stratégie RH.
Ouais, je pense que oui, là, parce que financièrement, il faut juste que tu sois à l'aise avec ce qui va sortir de là.
Je comprends. Arline?
Puis, tu sais, En fait, au niveau de l'affichage, je dirais, tu sais, est-ce qu'on veut aller jusqu'à ce niveau de transparence-là avec nos employés? Qu'est-ce qu'on a fait avant pour nous permettre d'afficher? Est-ce qu'on a des fondations qui nous permettent d'être solides avec l'information qu'on communique? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens actuellement qui sont en place qui vont voir ces salaires-là affichés. Mm-hmm. Puis des fois, c'est des contre-coups de « ben moi, je ne gagne pas autant, comment ça? » Puis tu sais, fait que, tu sais, moi, je vous dirais que tu sais, il y a beaucoup d'étapes, je pense, avant d'arriver à afficher. Puis là, je parle peut-être à des entreprises qui ne sont pas le critère premier, pas l'ancienneté. Là, tu sais, c'est les compétences, la performance que j'apporte dans un poste. Tu sais, est-ce que j'ai une structure, des fondations en place? Est-ce que j'ai communiqué comment ça se passe, la rémunération chez nous? Pourquoi? Tu sais, pour qu'il y ait le moins de questionnements quand j'affiche de la part des employés, là, parce qu'on sait qu'on peut facilement démobiliser des gens à l'interne en affichant, puis en, quand les gens se questionnent par rapport à leur salaire, puis leur valeur, là, parce que c'est très finement dissocié, même si on parle d'un poste et tout ça, ça se croise. Là. Fait que dans le fond, je dirais que s'il n'y a pas de recette, mais il faut voir qu'est-ce qu'on a fait en termes de rémunération avant de pouvoir afficher là, les salaires là, à travers l'ensemble de l'entreprise.
Je pense que c'est un bon cue à dire. S'il y en a qui disent « je l'affiche-tu, je l'affiche pas », il y a un travail à faire derrière ça. Tu peux arriver du jour au lendemain. Puis il y a un questionnement stratégique aussi à dire « OK, attends un peu. » Je pense que ça répond quand même à nos questions.
Tout à fait. En fait, c'est une question si simple, mais c'est, en fait, le processus est vraiment plus complexe qu'on le pense. Fait que, moi, ça m'a beaucoup éclairé.
Oui, en groupe. J'en termine avec une petite question. Bien là, habituellement, je vous aurais prêté mes lunettes, mais écoute, vous avez tous des lunettes. Fait que si je vous demande à tour de rôle, en quelques mots, si on revient en arrière, puis vous parliez à votre jeune vous qui va débuter dans vos industries respectives, quel conseil tu pourrais donner à Arline qui débute en Rénum? Et non en psychologie, mais tout est dans tout.
Oh, oui. Écoute, je dirais la personne en rémunération, tu sais, mettons la petite fille
ou le petit gars
ou le petit gars, c'est ça. Moi je dirais de beaucoup être à l'écoute du client, mais tu sais, je pense que ça va s'appliquer en rémunération, mais ça va aussi s'appliquer quand on fait du recrutement. Tu sais, d'être beaucoup à l'écoute parce qu'évidemment, tu sais, tout ce qu'on fait en termes de rémunération doit être adapté aussi aux enjeux, adapté aussi à la réalité de la PME. Fait que je dirais que ça serait pas probablement l'écoute de la part là, de la petite fille qu'il faudrait qu'il écoute aussi son client ou sa PME pour lui donner les solutions les plus concrètes et les plus adaptées là, en fonction de sa réalité. Puis, ça serait probablement ce que je mettrais.
Ouais. Simon, si tu mettais les lunettes à quelqu'un qui débute, mais là, toi, t'es comme hors commun, là, tu sais.
Bien, je pense que moi, quand j'ai commencé, je voyais que j'avais des amis en marketing, puis, tu sais, le panneau publicitaire sur le bord de la route, c'est notre équipe qui a travaillé là-dessus, puis je sentais pas que j'avais cet impact-là, mais c'est avec le temps que j'ai réalisé que l'impact d'un comptable peut être significatif puis majeur, bien plus qu'un panneau publicitaire sur une entreprise. Fait que c'est de prendre le temps de regarder ce que tu fais comme travail, ce que ça apporte, puis de le rendre utile pour la personne qui le regarde.
C'est comme un travailleur de l'ombre. Puis Arline, t'es comme, tu humanises la rémunération.
Voilà.
Mais je vous confirme les deux qu'on a besoin de vous. Je vous le confirme. Donc, on a un petit cadeau pour vous.
Ben voyons
donc. En terminant.
Alors, à l'agence Charlie, quand on termine un mandat, comme on est complice de votre croissance, eh bien, on aime offrir un petit cactus en guise de petit rappel, juste pour un petit souvenir. Donc, je te laisse le penser, Arline.
Mais moi, je le donnerai à Simon, celui-là.
À celui-là, Simon?
Pas ah, que oui, je te juge, là, mais lui, il va
on
mieux.
On a plus la même coupe de cheveux. Oui, c'est ça,
là. Absolument, hein? C'est là qu'on... Comprends. Alors, pour toi, mon cher
Merci
Simon.
Beaucoup.
Et Arline, comme c'est beaucoup plus complexe,
oui,
la rémunération, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de choses, c'est pas juste...
Hey, c'est pensé, là, gros.
Tout est pensé, c'est ici, concept. Là. Donc... Voilà, donc c'est important bon, d'en prendre soin.
Merci beaucoup.
Simon, Jodoin, Merci d'être venu à l'expérience. Merci d'avoir calculé l'expérience. Merci d'avoir stratégiquement pensé avec nous l'expérience.
Ça fait plaisir.
Si on veut te rejoindre, où est-ce qu'on te rejoint? Si on écoute ça et on dit « I need him »,
LinkedIn, c'est la meilleure place pour me rejoindre facilement. Sinon, apexdirectionfinancière.ca.
Est-ce qu'on me rappelle aussi que tu es rendu dans ton millième de posts vus?
Million de vues, oui, sur LinkedIn.
C'est un CFO, il n'y a pas les bas bruns. Je fais juste dire. Arline, merci énormément d'être venue à l'expérience.
Ça fait plaisir.
Même chance pour toi. Si on veut te retrouver, on te retrouve où?
Sur LinkedIn.
Sais que tu es très occupée, mais
oui.
Encore.
Oui, sur LinkedIn, la meilleure façon, un peu comme Simon, c'est la meilleure façon de me rejoindre efficacement.
Oh, voilà. Génial. Bien, merci beaucoup. On vous remercie énormément. On remercie nos commanditaires qui nous ont habillés, la boutique M2. On a la microbrasserie Le Bockel, on a nos magnifiques vins
Olcades qui sont importations privées. Et puis ben merci à toi Fanny, toujours super
Roselyne.
Solide à l'animation.
Merci Roselyne, ça a été enchanté. On remercie nos partenaires Annie Bienvenue Communication, JPL Numérique ainsi que le studio FX qui nous accueille. Restez des nôtres, une capsule par mois le mois prochain, un sujet, un invité super intéressant. Donc aimez, partagez, suivez-nous, commentez pour que on reste en vie et qu'on ait autant de plaisir à faire ce projet-là. Merci et bienvenue à l'expérience. Au plaisir d'être complice de votre croissance.